correctement ce que Dieu veut que nous connaissions de la manière dont Jésus, envoyé par le Père, est venu pour se révéler à la fois dans la prière, dans l'offrande de lui-même et dans l'appel à le suivre sur ce chemin. En réalité, à travers l'évangile de Saint Jean au chapitre 12e, qui a l'air de convoquer plusieurs paroles de Jésus qui ont l'air un peu séparées les unes des autres, en réalité, il faut reconnaître dans le texte de Saint Jean l'équivalent de la scène de Gethsémani que nous avons dans les trois évangiles de Saint Matthieu, de Saint Marc et de Saint Luc, et qui se situe juste après l'épisode de la scène et de l'institution de l'Eucharistie, et qui précède immédiatement l'arrestation de Jésus. Nous lisons le texte de la prière ou de l'agonie de Jésus à Gethsémani pendant l'évangile de la Passion, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux, où c'est la version synoptique, Matthieu et Marc-Luc, cette année ça sera Saint-Marc, et dans l'évangile de Saint-Jean pendant le Vendredi Saint, mais qui n'en parle pas directement. Saint-Jean a comme décalé de quelques chapitres en amont cette scène, peut-être parce que il s'était rendu compte, comme chaque année, que le Jeudi Saint, nous lisons généralement l'institution de l'Eucharistie pendant la scène, le Vendredi Saint, nous suivons le procès de Jésus et son calvaire et sa mise au tombeau, et la scène de Gethsémani n'intervient jamais parce que chronologiquement, elle se situe à peu près entre 3 et 4 heures du matin, dans la nuit du Jeudi Saint au Vendredi Matin Saint. Et on a beau répondre à l'appel du Christ à être vigilant, en général, à 2 heures du matin, on dort. Et d'ailleurs, c'est le problème des disciples pendant que Jésus prie à Gethsémani, eux aussi, ils dorment. Et dans le lectionnaire, même sur 3 ans que l'Église nous propose, nous n'avons jamais, de manière directe, le récit évangélique de Gethsémani. Il n'y a que les allusions que nous avons dans l'Évangile de Saint Jean de ce dimanche et la lettre aux Hébreux, que nous allons lire aussi, qui nous invite à anticiper ce dimanche cette scène tout à fait extraordinaire. C'est une scène qui est bouleversante et racontée de manière un peu énigmatique. Nous voyons plusieurs groupes de personnes. Il y a un groupe d'apôtres, il y a un groupe d'étrangers qui arrivent, les Grecs, et puis il y a après la prière de Jésus lui-même. Le groupe des disciples n'est pas brillant. D'abord, sur les 12, il n'en reste plus que 3, Pierre, Jacques et Jean, qui ont déjà été aux premières loges pour des scènes importantes, comme la résurrection de la fille de Jaïr ou de la transfiguration. Mais ces apôtres se retrouvent incapables de veiller pendant que Jésus va prier. Le lieu de la scène à Gethsémani a son importance. Les archéologues ont reconstitué de manière assez précise les lieux de la scène. Jésus est allé célébrer la Pâque juive avec ses disciples et ses amis et la Vierge Marie, sûrement du côté de Jérusalem, du côté ouest, et il revient donc au mont des Oliviers, et ça a quelque importance, parce que sur ce mont des Oliviers, de l'autre côté du torrent du Cédron, il y avait une route Et cette route de l'époque romaine, du temps de Jésus, a été parfaitement retrouvée par les archéologues contemporains. Et c'est une route qui, allant vers l'est, mène vers le désert. L'intérêt stratégique de cette route, c'est que quand on parvient en quelques centaines de mètres seulement dans le désert, on est à l'abri si jamais on était poursuivi par la police ou l'armée qui voudrait vous appréhender. Et Jésus est allé avec ses disciples dans ce domaine de Gethsémani, qui veut dire le pressoir à huile, qui se trouve sur ce chemin. C'est-à-dire que Jésus est à un carrefour de sa vie. Il est venu apporter l'Évangile, a signifié par des paroles et par des gestes les signes du royaume, et de manière paradoxale, on l'a noté pendant ce carême, plus Jésus fait du bien à ses contemporains, et plus on veut se débarrasser de lui. C'est intéressant sur ce que jusqu'où peut aller l'ingratitude, mais aussi tout simplement la méconnaissance. La plupart du temps, nous ne nous rendons pas bien compte de ce qui se passe entre les personnes. Des gens nous font du bien, on ne le voit pas. Des gens nous font du mal, ça, on le voit généralement un peu plus, mais pas forcément non plus. Il faut nous méfier de l'aveuglement et bien entendre la leçon du Christ dans cette nuit, du jeudi au vendredi saint, veillez, soyez vigilants, rendez-vous compte de ce qui se passe. Et donc les bienfaits de Jésus ne sont pas reçus. Au contraire, on se rappelle que un des gestes grandioses qu'il réalise, une résurrection d'entre les morts pour Lazare, va être comme la goutte qui fait déborder le vase et qui rend insupportable la mission de Jésus. Il faut s'en débarrasser. Qu'est-ce que Jésus peut faire ? Jésus, et il faut toujours s'en souvenir, on ne se rend pas bien compte, Jésus, depuis son enfance, est menacé. La volonté d'Hérode d'aller assassiner les petits-enfants de Bethléem pour se débarrasser d'un éventuel roi des Juifs annoncé par les mages n'est pas de la mythologie. On a des rois qui veulent éliminer leurs concurrents. On peut même dire d'ailleurs que l'institution royale est une machine, vous voyez, à se débarrasser violemment de ses concurrents. Et plus ils sont de la même famille, plus il faut s'en débarrasser. Ça fait réfléchir sur les institutions et leurs faiblesses. Mais Jésus, ensuite, 30 ans plus tard, a pris, rappelons-nous, la succession missionnaire de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a été égorgé sur l'ordre du roi Hérode. Or, les disciples qui suivent Jésus ont d'abord suivi Jean-Baptiste, et c'est toujours dangereux de continuer l'œuvre de quelqu'un qui a été assassiné violemment. On est soi-même sous le coup d'une arrestation et d'un assassinat. Je dis ça parce que les paroles de l'Évangile que nous avons, les paroles de Jésus, ne sont pas dites par quelqu'un confortablement installé dans sa chaire ou dans un endroit aussi hospitalier qu'un sanctuaire marial. Mais quand quelqu'un risque sa vie, ses paroles sont à prendre encore plus au sérieux que s'il était dans une situation plus sécure. Ses paroles valent de l'or. Plusieurs fois, Jésus a dû échapper à ceux qui le poursuivaient. C'était l'évangile d'hier. Jésus échappa à leurs mains, à ceux qui veulent lui faire la peau, pardonnez-moi. Et on explique, dans saint Jean, parce que son heure n'était pas encore venue. Et donc Jésus échappe à ceux qui veulent lui faire violence. Le soir du jeudi saint, et c'est important à mon avis de le savoir, Jésus se trouve dans un endroit où il pourrait échapper à ses adversaires. La route s'offre à lui, il n'a qu'à qu'à prendre quelques centaines de mètres vers le mont des Oliviers, et ils se retrouvent à l'abri dans des zones remplies de caches dans lesquelles ils pourraient être à l'abri. Et c'est là que Jésus va affronter, attendre et se laisser emmener par ceux qui veulent le tuer. Mais avant d'offrir sa vie, il tient à manifester que c'est en toute liberté qu'il le fait. Si je prenais une comparaison, Jésus n'est pas Louis XVI qui a été arrêté à Varennes en espérant pousser plus loin. Non, Jésus aurait pu partir et il a dit « Non, je reste et j'affronte ». Qu'est-ce que Jésus affronte ? Rien d'autre, mes chers amis, rien d'autre que la mort. Quand on lit les évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, ce n'est pas forcément très très clair. Souvenons-nous de la prière que fait Jésus dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Et Jésus est à genoux, il prie intensément, il est tout seul, il s'éloigne des trois qui aussitôt s'endorment, et il a cette prière trois fois. « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. » Avouons que c'est un peu énigmatique. Un peu énigmatique. Qu'est-ce que Jésus demande exactement ? Alors, quand on est un peu pressé, on se dit, tiens, cette coupe, ça doit être une image pour dire que c'est la mort. Et comme nous avons peur de la mort, parce que nous sommes des gens de peu de foi, nous nous disons, et c'est rassurant, que Jésus a dû connaître le même sentiment. Comme ça, on peut dire que ça nous rassure. Il est étonnant que Jésus, à ce moment, aurait comme flanché, en disant tout à coup, serait pris de panique, alors que dans les heures qui précèdent et pendant les trois années qui ont précédé, Jésus était montré de manière très, très affirmée. Jésus disait par exemple, « Elle vient l'heure, et c'est maintenant, et comme j'ai hâte qu'elle arrive, je dois être baptisé d'un baptême, » il parle de sa mort, hein, le baptême c'est l'engloutissement, « et comme j'ai hâte d'y arriver. » Est-ce que tout à coup, Jésus aurait changé d'idée ? En réalité, il faut s'informer plus avant et chercher, notamment dans la Bible, à quoi correspond cette fameuse coupe ? Que cette coupe s'éloigne de moi ? Est-ce que c'est la coupe qui signifierait la mort ? On ne trouve pas d'exemple de cette jonction. La coupe, dans la Bible, elle a une autre fonction. Elle signifie le jugement, c'est-à-dire les conséquences du bien ou du mal que nous avons fait et le verdict qui peut être posé par une autorité divine ou humaine pour dire si une action a été jugée bonne ou si elle a été jugée mauvaise. Et la coupe représente, chez les prophètes, le jugement de Dieu. Et c'est au fond toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de chacun, la mienne, la vôtre, qui est présentée aux yeux de Dieu. Et évidemment, cette coupe, elle a deux aspects. Il y a deux sortes de coupes dans la Bible. Il y a la coupe de colère, la coupe remplie de poison. Et évidemment, c'est facile de comprendre que c'est la coupe de toutes les mauvaises actions que nous commettons. Et vous pouvez imaginer que même si la coupe était très, 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 très évasée, assez rapidement, comme on dit, la coupe est pleine. Qu'arrive-t-il quand la coupe est pleine ? Ça déborde. Et c'est la colère qui se manifeste. Heureusement, il y a une autre coupe que Dieu propose. C'est une coupe de bénédiction. Ça, c'est la coupe d'action de grâce pour tout le bien que Dieu nous donne d'accomplir quand nous sommes sensibles à cet accord que Dieu veut établir entre lui et nous. C'est quand notre bonne volonté, qui veille toujours un peu comme une mèche qui fume, même si ce n'est pas très ardent, il y a toujours en nous, une bonne nouvelle, une bonne volonté qui est prête à se réveiller. Et Dieu souffle sur ces braises, souvent faibles, pour essayer de faire sortir quelque chose de bon. Et on y arrive, avec l'aide de Dieu, on y arrive à la prière de Notre-Dame des Victoires. La victoire peut être remportée. Alors il y a ces deux coupes qui se manifestent, une coupe très pleine, celle de la colère, et une autre coupe, celle de la bénédiction. Vous voyez, quand à la messe, on élève la coupe, vous voyez, c'est la coupe du salut, c'est la coupe de bénédiction. Et nous prions et nous agissons de sorte que cette coupe prenne de plus en plus d'importance. Eh bien, je crois que c'est exactement la prière de Jésus. Jésus demande à son Père que la coupe de colère se vide, qu'elle ne soit pas regardée comme la plus grande, comme la plus remplie, comme la plus lourde. Et pourquoi ? Bien parce que Dieu n'est pas simplement un juge. Dieu est juge. Dieu jugera le monde et il le juge, je dirais, chaque jour. Il nous connaît par cœur. On ne peut pas lui mentir, ça ne sert à rien. Mais Dieu n'est pas que juge. Dieu se révèle, et on a bien du mal à l'accepter, Dieu se révèle comme un père. Et un père veut toujours le bien de son enfant. C'est saint Luc qui raconte, on l'a lu pendant le carême, la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue a beau multiplier les insanités, le père, lui qui est plein de tendresse et d'amour, est toujours prêt à accueillir son fils. Et quand il revient, il le comble, il le reconstruit complètement, il l'habille complètement à neuf. Et ce qui est merveilleux dans cette parabole, c'est que le fils accepte, comprend parfaitement cette bonté du Père. Il est pourtant plein de contrition, mais de l'autre côté, il voit cette miséricorde. Et Jésus, c'est sûrement lui, justement, qui nous donne d'admettre, d'accueillir, de pouvoir supporter, parce que ça pourrait être insupportable, que Dieu puisse aller jusqu'au bout du pardon qu'il veut nous accorder. Que cette coupe passe loin de moi, c'est la coupe de colère. Et que même Dieu, dont la spécialité est de renverser les situations, puisse transformer par son amour tout-puissant une coupe de colère en une coupe de bénédiction. Et c'est vrai que le mal, lorsque il remplit la coupe, quand il est pris en considération dans la contrition d'un cœur qui se retourne pour demander le pardon, alors c'est un torrent de lumière qui est prêt à surgir et qui emporte tout sur son passage. Encore faut-il oser l'expérience de cette transformation. Demain, la conférence de carême de Notre-Dame, qui a lieu pas loin d'ici, à Saint-Germain-l'Auxerrois, va mettre en scène l'expérience d'un écrivain français, même d'origine néerlandaise, mais français, Huysmans, qui est passé vraiment par le contraire de la religion. Il a vécu dans l'athéisme pendant longtemps. Il a fait l'expérience même du satanisme. Et c'est Dieu qui a retourné complètement son cœur, qui à partir de ces deux expériences terribles, l'a amené à vivre intensément le christianisme, l'évangile. Et un des personnages les plus terribles de l'œuvre littéraire de Huysmans, est-ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un serial killer, voyez, donc un assassin qui collectionne ses victimes et qui, avant d'être rejeté par les hommes, trouve la grâce de pouvoir, devant ses victimes et leurs proches, de pouvoir demander le pardon, de savoir s'agenouiller pour voir le monde et pour voir sa vie de manière entièrement retournée. Et Huysmans, qui a connu les abîmes de l'indifférence et de l'opposition à Dieu, y voit justement le geste de la plus grande grâce que Dieu puisse accorder, à la fois du côté de Dieu, mais qui remplit un cœur humain de gratitude et de lumière. Non seulement c'est la mesure de Dieu qui se révèle, mais ça révèle une mesure qui trop souvent en nous est cachée. On dit toujours « c'est pas possible ». Vous connaissez ce que Dieu dit de lui-même, « rien n'est impossible à Dieu ». Juste cette demande de pardon qui crée des conditions de vie entièrement nouvelles avec l'aide de Dieu lui-même. Et donc, Jésus n'est pas du tout à renoncer à offrir sa vie pour le pardon des péchés. Ce que Jésus veut expérimenter pour que nous puissions, nous, être persuadés de la réalité de cet impossible que Dieu maîtrise et dont il est victorieux, c'est l'ennemi absolu de la vie, c'est-à-dire la mort. Mais quelle est l'attitude de Jésus devant la mort? Eh bien, nous le savons par l'évangile de saint Jean et par l'épître aux Hébreux, qui sont les lectures 2 et 3 de ce dimanche. Commençons par l'évangile de saint Jean. « Père, sauve-moi de cette heure. » Est-ce que c'est le « sauve qui peut » Est-ce que c'est « je m'enfuis dans le désert » Il faut lire tout doucement « Père, sauve-moi à partir de cette heure, au milieu de cette heure. » Quelle est cette heure pour Jésus? C'est l'heure de la mort. Ce n'est pas du tout l'idée « je ne veux pas mourir ». Et de toute façon, retarder sa mort, ce n'est pas grand-chose à la mesure d'une vie entière. C'est même un peu puéril. Vous vous rappelez cette prière pendant la terreur? Monsieur le bourreau, encore un peu de temps, s'il vous plaît. C'est gentil, mais ça ne va pas loin. Jésus, lui, va très loin. Vous voyez? Pour nous sauver de la mort, Jésus va pénétrer la mort. Selon une expression biblique, il va goûter la mort. Il va boire le calice de la colère, pour en faire, pour le digérer, et en faire un calice de bénédiction. Et ça sera en vérité au cœur même de l'épreuve qu'il dira ces paroles fulgurantes: « Au lieu de se révolter contre Dieu, en tes mains je remets mon esprit, et au lieu de se révolter contre ceux qui le déclarent coupable, lui l'innocent, le mettre à mort, lui le vivant, il dira « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et donc Jésus, au cœur même de l'épreuve, apporte la lumière que Dieu lui donne de vivre, et c'est en vue de la joie qui lui est promise par la promesse de Dieu qu'il va affronter la mort et goûter la vitalité de la résurrection bienheureuse une fois pour toutes. Oui, sauve-moi de cette heure, ce n'est pas ne pas la vivre, c'est la traverser en vainqueur. Et nous avons une confirmation, car dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, c'est la deuxième lecture de ce dimanche, on nous montre bien Jésus, médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Il voit le drame de la violence et du péché, et il veut vaincre cette violence, et il prie avec des cris, il prie avec des larmes, et saint Luc nous dit même qu'il va suer le sang, ce qui est une expérience physiologique terrible, qui montre à quel point Jésus est solidaire de notre misère. Et il prie qui? L'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit, et écoutons bien la phrase. Il prie celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais qui est Dieu qui peut nous sauver de la mort? Ou plutôt, que fait Dieu quand il nous sauve de la mort? Ah, ça serait confortable de dire on ne va pas mourir. Et encore une fois, qui n'a pas cette imagination, encore une fois, faible et de peu de sens? Mais c'est un réflexe. Il faut admettre que l'on ait ces réflexes. Mais ce n'est pas, de manière immédiate, ce que dit Jésus. Dieu peut sauver de la mort en tant qu'il ne fait pas éviter la mort, mais en tant qu'il ressuscite de la mort. Mais pour ressusciter, il faut bien passer par la mort. Et c'est ce que Jésus accepte, lui, le premier, pour entrer dans cette expérience, pour nous persuader que cela vaut vraiment la peine et que les limites de la vie, par les épreuves, les souffrances et la fin de vie, qu'on appelle la mort, n'anéantit pas du tout l'espérance de vie, le goût de la vie, l'amour de la vie, qui est un signe que cette vie vient de Dieu. Mais ce n'est pas nous qui en sommes les maîtres, c'est Dieu qui en est le maître. Et cette expérience, donc, de Jésus à Gethsémani va au fond de ce que, plus ou moins secrètement, peut espérer tous ceux qui appartiennent à l'humanité, mais dont la mise au clair n'est jamais forcément faite. Et nous voyons que 2000 ans après cette formidable expérience du Christ, qui veut mettre la puissance de vie à la disposition de tout homme qui vient en ce monde, est toujours aussi mal reçue. Ah, il y a bien une parole que vous pourriez me rétorquer. J'attends le premier rang, mais il roupille de toute façon. Ah, il se réveille. Vous auriez pu me faire une objection, je l'attendais. Oui, mais Jésus dit une phrase terrible. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette rupture entre Dieu et Jésus, ou entre Jésus et Dieu lui-même? Alors, peut-être allez-vous trouver que je m'en sors un peu facilement, mais ce n'est pas moi qui m'en sors, de toute façon. Vous voyez, la suggestion que je vous propose m'a été personnellement soufflée par un vieil ami qui est mort il y a quelques années, plus que centenaire, qui n'était pas chrétien, au moins, il n'était pas baptisé. Il s'agit d'un poète juif qui s'appelle Claude Vigée, alsacien, et qui, à mon avis, avait un sentiment, une pensée chrétienne extrêmement approfondie, connaissait parfaitement l'hébreu, connaissait beaucoup les évangiles, le Nouveau Testament et la Bible tout entière. Et il me disait, vous comprenez, c'est pas pourquoi, c'est en deux mots, pour quoi, c'est-à-dire en vue de quoi m'as-tu abandonné à la mort. Oui, c'est-à-dire que la mort n'était pas du tout la fin, mais c'était la même idée que nous avons avec Dieu qui peut le sauver de la mort, ou bien la prière « Sauve-moi de la mort », à partir de la mort. Il faut entrer dans la mort pour pouvoir comprendre à quoi Dieu veut nous conduire, c'est-à-dire à la vie. Et c'est l'expérience de tous les saints. D'abord, c'est l'expérience d'Israël, qu'au-delà de la mort, Dieu nous réserve une vie nouvelle, même s'il n'y a pas d'expérience, il faut attendre le Christ pour cette expérience. Mais ceux qui, pendant leur vie, ont prié Dieu, ont servi leurs frères, le savent. Remémorons-nous les paroles ultimes, les ipsissima verba de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus que nous aimons dans ce sanctuaire. Vous rappelez, ça peut paraître des phrases, hein, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Alors, « Je ne meurs pas », ce n'est pas qu'elle n'est pas morte, elle est morte, voyez, mais « Je ne fais pas que mourir ». En entrant dans la mort, je passe le chemin, en tenant la main de Dieu, ou Dieu qui tient ma main, je passe sur le chemin, vers le chemin de la vie elle-même. Et on se rappelle que quand on canonise un saint, le jour de sa fête est en général, s'il n'est pas trop encombré, on prend le jour de sa mort, qu'on appelle en latin romain le dies natalis, le jour de la naissance. Et il faut se dire combien même une naissance au monde, notre naissance depuis quelques décennies pour la plupart, oui, a été à la fois une entrée dans la vie mais douloureuse, en affrontant les conditions vitales qui sont souvent hostiles. Eh bien, à l'autre bout de la vie, lorsque nous mourons, eh bien, nous avons une expérience qui doit ressembler à celle de la naissance. Nous traversons une épreuve, elle aussi terrible, pour aboutir à une vie qui est nouvelle. Nouvelle ? Peut-être pas si nouvelle que ça. Car au fond, de même que Jésus ressuscité a voulu vivre 40 jours avec ses disciples pour nous dire que c'était bien maintenant que la résurrection était efficace dans notre vie, même dans ce monde éphémère, il y a des expériences qui nous font communier à la vie nouvelle et éternelle. Rappelons-nous que les efforts de carême ne sont pas simplement des efforts ascétiques. La prière, le jeûne et la miséricorde sont des attitudes positives. Ça nous fait vivre des expériences fructueuses, pour soi comme pour autrui. On l'a vu déjà pendant le carême, je rappelle le premier verset du premier psaume. Bienheureux ceux qui prennent du plaisir à la loi de Dieu. Il n'y a aucun égoïsme à ressentir de la joie, à se priver d'un repas, à donner à ceux qui ont besoin ou à consacrer du temps dans la prière. Au début, c'est toujours ascétique, au début, c'est toujours contrariant. Mais pour peu qu'on soit décidé à durer un tout petit peu de temps, alors on entre dans une perspective nouvelle. Et ce n'est pas se faire plaisir à soi que l'on cherche, c'est recevoir le plaisir que Dieu veut nous communiquer à agir de manière juste et bonne. Car lorsque on fait ce pourquoi on a été créé, on doit pouvoir le ressentir, on doit pouvoir l'identifier. Et donc c'est une belle expérience. Mais voyez, à condition surtout de ne pas être seul. Il ne s'agit jamais de faire pour soi, il s'agit de faire pour d'autres et avec Dieu. Et je me demande pour finir s'il n'y a pas cette expérience dans un débat toujours compliqué et qui rebondit encore en notre temps moderne, c'est toujours ce que nous voulons vivre au moment même de notre mort. Il me semble que l'idée de fraternité est une idée profondément christique. Le Christ s'est fait notre frère, c'est un trésor inestimable. La vie fraternelle est un signe que le règne de Dieu s'est approché. Tout cela encore est très religieux, très mystique même. Il n'empêche que c'est raisonnable. Et notre République l'a inscrit dans sa devise. Mais comment se comporter de manière fraternelle, et notamment devant quelqu'un qui souffre, devant quelqu'un qui meurt? Déjà, voyez-vous, si on prend au sérieux cette fraternité, on peut se demander, vais-je tuer mon frère? Puis-je répondre à un désir de mort de la part d'un frère? Car un prochain, c'est un frère. Nous partageons la même chair, nous partageons la même condition. Si je suis croyant, je vais penser que même si lui ne l'est pas, nous sommes enfants de Dieu. Comment tuer un enfant de Dieu? D'autre part, on peut penser que ce dont un mourant a besoin, et une fois qu'on a passé 70 ans comme moi, on finit par prendre les choses au sérieux. Avant, on me disait « oui, mais vous êtes jeune, c'est de la plaisanterie ». On guérit vite de sa jeunesse. Et donc, on se prépare. Enfin, je me prépare aussi. Et ma conviction, en ayant accompagné et en accompagnant bien des malades et des mourants, je me dis que ce dont on a le plus besoin, c'est d'être aimé. C'est que quelqu'un soit là et vous manifeste non seulement des soins, ce qui est indispensable et nécessaire, y compris pour ne pas souffrir, mais manifeste qu'on existe et que nous aussi, notre vie, elle vaut la peine d'avoir été vécue parce qu'on aura été aimé par ceux qui nous ont engendrés, par ceux qui nous ont fait du bien. Et on aura, on l'espère, on aura rendu quelque chose de cet amour. On aura inventé aussi des occasions d'aimer et de faire du bien. Et là encore, il faut prendre au sérieux ce désir, même s'il ne sait pas forcément s'exprimer. Mais voyez-vous, il me semble que si on ne veut pas être seul au moment de la mort, sauf mort violente, mais on demande à Dieu de nous en protéger, mais d'une mort, on va dire, où on puisse être accompagné, c'est aujourd'hui qu'il faut faire des amis, c'est aujourd'hui qu'il faut créer une fraternité, c'est aujourd'hui qu'il faut créer de bonnes relations avec autrui. Ceux à qui on aura fait du bien, ceux avec qui on aura créé des éléments fraternels et amicaux, quand on sera à notre dernier moment, eh bien, quelques-uns seront là. Et on saura justement qu'ils sont là parce qu'ils nous aiment. Et on aura envie d'aimer jusqu'au bout. Et là, je crois qu'on aura véritablement vécu sa vie comme on aura aussi pu vivre sa propre mort. Il y a là une ambition, une expérience qui est celle de Jésus, qui est celle des saints et qui ne demande qu'à être la nôtre. Mais voyez-vous, en dehors des trois grandes attitudes du carême, c'est vrai que l'amitié, la famille, la solidarité, la miséricorde, la prière, le pardon, vous voyez, ce sont des exercices qui nous préparent à être sauvés de la mort, à traverser la mort de manière positive, de manière à aspirer, à attendre et à espérer et à goûter par avance la vie nouvelle et éternelle. Au fond, il s'agit de recevoir la vie de quelqu'un d'autre. Et principalement, mes amis, de sortir, même si c'est difficile, de sortir de notre solitude. Je termine par la correction récente d'une parole de Jésus qui a souvent été mal entendue, mal menée. Jésus dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la recevoir. » Avant, on traduisait, et c'est quasiment un blasphème, avant on traduisait « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » On a dit ça pendant des siècles. Et on croyait honorer Jésus dans sa toute-puissance. Moi, je l'ai répété comme tout le monde, jusqu'à ce qu'au catéchisme, un enfant me dise, je répète la phrase, ma vie ne la prend, c'est moi qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et un enfant m'a dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. J'avais pas l'air fin, en plein catéchisme. Et il a fallu que... Alors, je m'en suis sorti par une boutade et je suis plus grand qu'eux, donc j'ai maintenu mon autorité et mon prestige. Mais je suis allé voir après, dans les textes en grec, je sais pas quoi, et il avait raison, le gosse. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la recevoir. Jésus ne reprend pas sa vie, Jésus ne se ressuscite pas, Jésus se donne à quelqu'un, Dieu son Père, il se donne à beaucoup de gens, nous ses frères, pour recevoir d'un autre la vie nouvelle. Et le disciple n'est pas au-dessus du maître. Donc nous aussi veillons à ces justes relations, que ce carême, qui n'est pas encore fini, encore 15 jours, que ce carême soit vraiment une occasion de vérifier où en sont nos relations avec autrui. Respectons-nous Dieu pour ce qu'il est. Respectons-nous notre prochain pour ce qu'il est dans sa dignité. Et même encore plus loin, est-ce que nous l'accueillons comme un frère selon la volonté de Dieu. Oui, je crois que, et ce mot est toujours important, c'est l'amour, c'est la charité, l'amour d'un autre, toujours nouveau, qui nous apprend à pouvoir traverser la mort pour vivre déjà aujourd'hui de cette vie nouvelle. Voilà, Dieu veuille que ce dimanche soit une belle étape qui nous conduira jusqu'à la Semaine Sainte. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Allez, chantons la Vierge Marie qui nous sauve de la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Victoires, Saint Joseph, patron de la bonne mort, que nous fêtons cette semaine. Amen. Merci.